France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Né en 1843 dans le petit village de Sauveterre dans les Pyrénées, arrivé à l'âge de 5 ans à Paris, ouvrier typographe à 12 ans, gréviste à 19, Jean Alleman devint à 28 ans l'un des chefs les plus actifs de la rébellion communarde dans le 5e arrondissement de Paris. Arrêté et condamné aux travaux forcés à perpétuité, au lendemain de la répression de la semaine sanglante de mai 1871, il fut déporté au bagne de l'île Nou en Nouvelle-Calédonie. Dans les deux premiers volets d'une série de 3 épisodes des Inconnus de l'Histoire de Jean Montalbetti, on avait découvert cette trajectoire emblématique d'une génération d'ouvriers engagés dans la commune. Dans le dernier volet, on va apprendre comment, enfin libéré après 8 longues années de détention, Alleman devint l'un des fondateurs de la Fédération des travailleurs du livre et incarna un courant original du socialisme français. Les Inconnus de l'Histoire, Jean Alleman, 3e et dernier volet, une émission diffusée pour la première fois le 25 mars 1983.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconocidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rende zero.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire.
Enquête sur l'un des dirigeants de la Fédération du Livre, fondateur d'un nouveau courant socialiste, Jean Alleman, par Jean Montalbetti. Médiateur Madeleine Rébériot, vice-présidente du musée d'Orsay. Consultant Jean-Jacques Eisenmann de la Fédération des travailleurs du livre. Dans le rôle de Jean Alleman, Jean Rochefort. Réalisation Eliane Millot.
Montravel. 13 août 1873. Ma chère et bien-aimée, je ne sais si la lettre que je t'ai envoyée par le précédent courrier te parviendra, car involontairement ma plume s'est laissée dominer par l'idée fixe qui m'obsède, le triomphe de la République. J'ai, je crois, parlé de justice et de droit, ce langage a été intempestif, et j'ai bien peur que notre chère correspondance s'en ressente. Ma santé est toujours excellente, mais je m'ennuie à mourir depuis que je sais que la République est en danger et que j'assiste impuissant à y porter remède à la démoralisation d'un grand nombre d'entre nous. Ah, chère Marie, la misère et le milieu dans lequel nous vivons font sombrer beaucoup d'intelligence née pour le bien.
Madeleine Rébériot, Jean Alleman, typographe, chef communard le plus actif du 5e arrondissement pendant la Commune de Paris, condamné aux travaux forcés à perpétuité et déporté en Nouvelle-Calédonie, va bénéficier de l'amnistie promulguée le 11 juillet 1880 et il va rentrer en France. C'est alors un homme de 37 ans qui vient de vivre 9 ans de bagne. Dans quel état physique et psychique se trouve-t-il quand il rentre en France ?
Physiquement, il a, semble-t-il, relativement mieux survécu qu'on ne pourrait l'imaginer. Peut-être à cause de sa grande maigreur. Vous savez, ces petits gascons secs type auquel appartient Alleman, ce sont des gens qui tiennent mieux le choc dans des circonstances aussi terribles que les hommes grands, forts et gras. Il n'avait pas de graisse à perdre et il en a certainement perdu un peu, mais il a mieux tenu le coup, somme toute. que d'autres de ses camarades de déportation. Beaucoup d'entre eux meurent pratiquement dès leur retour. Trinquet, par exemple, son ami Trinquet, meurt très peu de temps après son retour. Allemann reprend ses activités presque aussitôt. Est-ce à dire qu'il ne lui restera pas de traces dans sa longue vie, il ne mourra qu'en 1935, de la déportation? Certainement si, et en particulier une tendance au rhumatisme qu'il poursuivra toute sa vie et qui lui rendra difficile, mais non impossible, il est vrai qu'il avait une volonté de faire, l'activité militante, la vie militante qu'il va déployer sans interruption. Moralement, on le sait mal, parce que Allemann parle peu de lui-même à partir du moment où, rentré en France, il n'a plus l'occasion, ou n'est plus dans le besoin, de correspondre avec celle qu'il aimait, ou de correspondre avec sa famille. On ne peut donc évoquer le personnage moral d'Allemann qu'à travers les activités qu'il reprend. Et on ne peut que noter la promptitude fantastique avec laquelle il reprend quasi d'un seul coup la totalité de ses activités. Premièrement, l'amour. Il se marie pratiquement dès son retour, dès que l'amnistie est complète, donc, et qu'il peut s'installer en France. Il épouse Marie Thénault, il se réinstalle dans sa famille, son petit nid, comme il dira ensuite, cette espèce de ce petit logement modeste, très modeste. On le connaît par d'autres descriptions, notamment de Brisson dans son livre sur les prophètes, où il évoquera plus tard le petit logement d'Allemann. Mais un petit logement à eux, propre, avec des rideaux aux fenêtres et une table et quelques chaises.
Seule souffrance, sa mère est morte.
Seule souffrance, sa mère est morte, oui. Et il savait qu'elle était morte quand il est rentré. Mais il a reconstitué une famille et une vie de famille intense. La reconstitution non seulement de la famille, mais même de la fratrie, puisque son frère épouse la sœur de Marie Thénault et que les deux frères déportés ensemble, même s'ils n'avaient pas subi le même type de peine, se retrouvent dans une vie de fratrie absolument très étroite qu'ils vont conduire pendant de longues années. Goût et passion de la famille, par conséquent, qui ne met pas Allemann à part de la classe ouvrière française, des métiers parisiens qualifiés de la fin du XIXe siècle. Nous avons le sentiment aujourd'hui que la famille a beaucoup mieux résisté au coût du grand capital que nous l'avons cru pendant longtemps. Et que les gens soient mariés ou non ne change pas fondamentalement les choses, encore qu'on constate que Allemann rentrant se marie tout de suite. Marie le souhaitait tout de même. Autre activité, retrouver du travail. Et retrouver du travail dans son métier de typographe. Malgré tout, en cassant les pierres ou au four à chaud, il a beaucoup oublié de son métier. Il a perdu la main. Est-il encore capable de lever la lettre, comme on dit dans la typographie? Il a la possibilité de réapprendre son métier, de retrouver la main dans la petite imprimerie de son ami Duval, blanquiste qu'il avait connu pendant la Commune et qui lui offre une place où il gagnera sa vie comme ouvrier, alors qu'en fait il fera pendant quelques mois, quelques semaines au moins, un travail d'apprenti. Bien. Et ensuite se réembaucher dans les imprimeries de presse qui, par chance pour lui, se multiplient en 80-81 avec la loi sur la liberté de la presse. Oui. Permet un épanouissement fantastique de la presse française, ce grand médium de la fin du XIXe siècle. Il va travailler longtemps à La Nation, il va travailler au Radical, il va travailler au Prolétariat, journal socialiste.
Nous sommes dans l'un des derniers ateliers de la presse parisienne qui utilise la linotypie à l'imprimerie Sodec qui est rue du Croissant, c'est-à-dire donc en plein cœur du quartier de la presse, puisque nous sommes tout à côté de l'immeuble de la presse d'Émile de Girardin et il y a encore dans la rue du Croissant plusieurs imprimeries, il y en a je crois encore trois. Vous êtes historien de l'histoire de la Fédération française des travailleurs du livre. Est-ce que, en ce moment, on assiste à la disparition de cette ancienne forme d'utilisation de la linotypie au profit de la photocomposition? Est-ce que nous sommes dans un des derniers ateliers de linotypie qui fonctionne?
Vous m'avez demandé, quand nous avons préparé cette émission, de trouver un atelier où il y avait encore des linotypes. J'étais très étonné de savoir que nous n'existions encore dans un journal fonctionnant à Paris. En effet, dans toutes les imprimeries de presse parisiennes, et d'ailleurs dans toutes les imprimeries de presse, la quasi-majorité de toutes les imprimeries de presse sur le plan national, il n'y a plus d'atelier de linotypie, il n'y a plus de plomb chaud, comme nous disons, il n'y a plus de fonte chaude. Tout est passé en photocomposition pour des raisons de matériel moderne, modernisme, etc. Ici, les linotypes qui tournent encore ici sont tout à fait liés à une difficulté inhérente à un travail très particulier qui est fait dans cette entreprise. Dans un an, dans deux ans, je pense que l'ordinateur aura liquidé, y compris au croissant, les linotypes.
Alors cet atelier fonctionne une nuit par semaine et les machines, les linotypes qui sont en train de fonctionner en ce moment sont des machines qui ont, je crois, une cinquantaine d'années d'existence.
Ouh, elles poussent. La linotypie, les premières machines sont arrivées en France dans les années 1890. Et j'ai personnellement travaillé, il y a encore 10 ans, sur des machines qui étaient en place depuis 1905. Et ces machines-là ont été introduites. Je ne connais pas ces 6 machines exactement, mais enfin, le modèle 8 là-bas est là sans doute depuis 35. C'était de l'excellent matériel avec une fiabilité en vrai acier, je vous l'assure.
Jean Alleman a fait son apprentissage d'ouvrier typographe alors qu'il était très jeune, une douzaine d'années à peu près. Lorsqu'il a appris la typographie entre, mettons, 1855 et 1870, dans ces années du Second Empire, quelles étaient les méthodes et les conditions de travail des typographes ?
Les méthodes étaient exactement celles qui avaient cours lorsque j'ai fait mon propre apprentissage. Rien n'avait changé. Je le dis souvent, je ne parle pas d'Alleman, mais je parle de Gutenberg. Si Gutenberg était revenu dans l'atelier où j'ai fait mon apprentissage dans les années 36, il aurait été étonné par le petit moteur électrique qu'il y avait au cul de la Minerve. Mais au niveau de la composition, c'était les mêmes outils, les mêmes caractères, les mêmes termes, les mêmes mots, la même démarche mathématique de calcul, etc. Rien n'avait changé, donc pour Alleman, il n'y avait absolument rien de changé. Les linotypes n'existaient pas. Je pense qu'Alleman n'a pas connu les linotypes autant de son apprentissage, sûrement pas. Alleman a travaillé dans le labeur, c'est-à-dire dans une petite boîte, a fait son apprentissage dans une toute petite boîte, les boîtes du quartier d'ailleurs, plus ou moins. On les situe assez, hein, elles sont vraiment, elles tiennent toutes à 100 mètres autour de cet endroit. A fait son apprentissage alors à la main, c'est-à-dire en pompant à la main, comme nous disons, c'est des termes sacrés. Il n'a connu les linotypes que lorsqu'il est devenu petit patron, artisan, pour imprimer les journaux socialistes. Alors là, il a dû avoir un atelier avec des linotypes. Sinon, il n'a absolument pas connu. Alors les
comment
conditions
se faisait,
de travail,
faisait la composition ?
À la main, tout bêtement, avec un composteur, en prenant caractère par caractère. Si j'ai connu les pratiques du temps d'Alleman n'ont pas changé, ce qui a changé quand même, c'est les horaires. Il ne faut pas exagérer. Quand Alleman a dû commencer, il devait travailler au moins 12 heures par jour. 12 heures par jour, et surtout, et c'était la grande bataille déjà, pas des syndicats, il n'y en avait pas, mais des chambres de secours mutuels qui étaient les débuts des syndicats. La bataille, c'était d'imposer au patron que les apprentis ne fassent pas que les courses, n'allument pas que le feu, ne fassent pas que balayer, apprennent aussi un métier. C'était une très longue bataille, d'ailleurs qui n'a pas tellement changé, parce que la fédération est toujours très branchée sur l'apprentissage.
Quelle était l'organisation de la profession à l'époque où n'existait pas encore la fédération du livre ?
C'est très simple. Dans les temps au Moyen-Âge et ensuite, tout se passait par des corporations, n'est-ce pas ? À l'origine, c'était des associations semi-religieuses. Hein, des compagnons. Nous avons complètement échappé au compagnonnage. Hein. C'est une des spécificités du livre, absolument pas avoir été touché par le compagnonnage. Après la Révolution de 89, au Premier Empire, on commençait, se sont mis en place des sociétés de secours mutuels. C'était qui était officiellement et normalement d'ailleurs, avec des ramifications, enfin des implications religieuses, hein, plus ou moins de charité, des choses comme ça. Et très naturellement, ces sociétés de secours mutuels sont devenues des endroits où les ouvriers se rassemblaient, discutaient. Et très naturellement, l'argent des sociétés de secours mutuels a servi aussi à soutenir quelques camarades quand ils faisaient la grève. C'était déjà le commencement des prémices du syndicat. Et quand Alleman a commencé, il a dû adhérer à une société de secours mutuels. La notion de syndicat avait été interdite. Alleman a été mis en prison en 1868 parce qu'il a participé à une grève qui poussait vers le syndicalisme.
politique comme en administration, le pays attend et demande d'importantes réformes. Et il incombe à M. Grévy, dont le patriotisme et l'honorabilité ne font un doute pour personne, de prêter à ces réformes l'appui de son autorité et de son talent. En tête de tous les problèmes qu'il appartient à l'Assemblée de résoudre, se trouvent l'amnistie plénière et la réforme de la Constitution de 1875. J'ai quant à moi toute confiance en M. Grévy, et je compte qu'il immortalisera son nom en mettant fin à une distinction qui sera toujours un véritable danger pour une démocratie. L'homme qui fit un amendement contre la présidence ne saurait vouloir le perpétuer, et pour ceux que cette institution rend inquiets, car elle n'est après tout qu'une monarchie au petit pied, je crois être dans le vrai en disant qu'il est heureux que M. Grévy soit devenu président de la République, car je suis convaincu qu'il tiendra à honneur d'en être le dernier. 3 mars 1879.
La France de 1880 a bien sûr bien changé par rapport à celle qu'il a quittée. La République a maintenant 10 ans, elle s'est consolidée. C'est Jules Ferry qui en est le président du Conseil et qui est au fond le maître d'œuvre de ce qui va marquer l'histoire politique de la Troisième République.
Oui, la République a 10 ans en principe, puisqu'elle a été proclamée le 4 septembre 70, mais combien a-t-elle en pratique? Je veux dire, les républicains ardents comme Alman ont le sentiment que la République a 2-3 ans.
Finalement. Depuis la démission de MacMahon?
Non, pas depuis la démission de MacMahon. Oui, depuis la démission de MacMahon, ou disons tout au moins depuis la victoire des républicains après la tentative de coup de force de MacMahon du mois de mai, enfin du... Le coup du 13 mai, comme on dit. Bon, voilà la date de fondation réelle de la République. Finalement, les républicains ne conquièrent les pouvoirs politiques qu'entre 1878 et 1880. Et lorsqu'Alman rentre, on est tout à fait à l'aube d'une République où enfin tous les pouvoirs, la présidence de la République, le Sénat, la Chambre des députés, la majorité des conseils municipaux, sont dans les mains des républicains. Parmi ces pouvoirs, il y en a un qu'Alman n'estime guère, d'ailleurs, c'est la présidence de la République. Vous savez que, comme beaucoup de gens de sa génération, il a cette horreur du chef qui s'exprime par l'horreur du mot « président ». Que l'on puisse présider quelque chose, et notamment la République, lui semble antinomique. D'abord, scandaleux de présider quelque chose, et présider la République, ce sont deux termes contradictoires.
Et il espère que ce poste va être rapidement supprimé.
Oh, rapidement, oui, cela fait partie des espoirs qu'il nourrit et qui ne seront pas réalisés, comme beaucoup d'autres.
Alman est tout de même un homme d'extrême gauche, les positions qu'il a eues pendant la Commune et après ce qu'il a manifesté. Comment se situe-t-il par rapport aux républicains modérés, au contraire, qui vont avoir le contrôle du gouvernement pendant toutes ces années 80?
Il prend contact presque dès son retour, pas tout à fait dès son retour, mais presque dès son retour, avec les militants socialistes, actifs en particulier à Paris et dans un certain nombre de régions de province, et qui sont groupés dans ce que l'on appelle la Fédération des travailleurs socialistes de France. Le parti s'est constitué moins d'un an, un an, avant le retour d'Alman, en 1879, à Marseille. Et à peine, c'est ce qu'on appelle l'immortel congrès dans la grande tradition socialiste française, c'est le congrès de Marseille qui a adopté à la majorité, le collectivisme comme doctrine du parti. Mais le mot collectivisme ne désigne pas seulement les positions socialistes auxquelles Marx donne son nom. Le collectivisme est également approuvé par des socialistes très modérés qui vont se détacher d'ailleurs rapidement du courant qui se réclame de Marx. Et le collectivisme est également approuvé par les anarchistes. C'est une coalition d'un certain nombre de socialistes modérés, partisans de la conquête du pouvoir politique, des socialistes proches de Guède et qui se réclament de Marx, qui sont plus proches, disons, des positions de Marx, et des anarchistes qui approuvent le collectivisme et en fait la doctrine de la Fédération en 1879. Lorsque Alman rentre, les anarchistes sont déjà en train de se séparer du parti et ne restent plus dans le parti que les socialistes. Les scissions d'ailleurs vont commencer entre socialistes, le groupe auquel adhère Alman, que l'on va bientôt appeler le parti broussiste parce que le leader principal en est un ancien communard comme lui, médecin, Paul Brousse. Le groupe donc auquel adhère Alman est un des groupes qui se sépare au début des années 80. Il est normal qu'il adhère à ce groupe-là, dans la mesure où ce groupe recrute essentiellement chez les ouvriers des métiers qualifiés de Paris, dont beaucoup ont été communards. On y trouve des hommes comme Chabert, des hommes comme Geoffrin, qui sont des ouvriers qualifiés comme Alman. Et Brousse, médecin, fait un peu figure d'intellectuel parmi eux. Et c'est donc près d'eux que se range Alman, et non pas du côté des républicains opportunistes qui sont au pouvoir. Et c'est-à-dire pour autant que ces hommes combattent la République en aucune manière. La République est leur régime, c'est celui pour lequel ils ont souffert. Et nous avons dit à quel point Alman la portait dans son cœur. Donc, critiquer les républicains opportunistes, mais approuver les mesures qu'ils prennent quand ces mesures vont dans le sens de ce qu'ils pensent être le devoir républicain, la liberté de la presse, les lois scolaires, et pousser plus loin la République et donner à la République des bases de classe qu'à leurs yeux, le groupe Ferry, les opportunistes Ferry et même Gambetta n'ont pas.
Français, ne soyons plus esclaves, sous le drapeau rallions-nous. Sous nos pas brisons les entraves, 89, réveillez-vous, 89, réveillez-vous. Frappons du dernier anathème ceux qui, par un stupide orgueil, on tourne vers le sombre cercueil de nos frères morts et sans emblème. Chantons la liberté, défendons la cité. Depuis 20 ans que tu sommeilles, peuple français, réveille-toi. L'heure qui sonne à tes oreilles, c'est l'heure du salut pour toi. C'est l'heure du salut pour toi. Peuple debout, que la victoire, idons combat tes fiers guerriers. Prends à la France ses lauriers, son rang et son antique gloire.
Chantons la liberté, défendons la cité.
Marchons, marchons, sans souverain, le peuple du
Ces années 1880-1881 sont des années très difficiles, ce sont des années de crise économique. Est-ce qu'il y a à ce moment-là une aggravation de la condition de la classe ouvrière ?
Ce n'est pas tellement l'année 80-81, ce sont les années suivantes qui vont être vraiment profondément marquées par la crise. Surtout de 81 à 93 et 93-95 et à Paris plus particulièrement entre 81 et 84-85. Il y a là 4-5 années véritablement terribles. Des années marquées par un chômage intense, extrêmement violent, et qui touche en particulier les métiers qui servaient de refuge traditionnellement dans la vie du travail parisienne, en particulier les métiers du bâtiment. Alman a du travail, lui, à titre personnel, il ne semble pas avoir souffert du chômage. Il a du travail comme ouvrier et typographe, et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais il est conscient des malheurs qui touchent l'ensemble des travailleurs de Paris et aussi il est conscient des formes que prennent leurs révoltes. Les milieux anarchistes ou les milieux blanquistes, les disciples de Blanqui sont le seul courant révolutionnaire qui n'est pas adhéré au parti ouvrier constitué en 1879. Et ils sont considérés à Paris comme des révolutionnaires quasi sur le même pied que les anarchistes. Les milieux anarchistes donc et les milieux blanquistes s'implantent dans la classe ouvrière parisienne de ces années en prenant la tête des manifestations de rue, souvent violentes, parfois pour les anarchistes des pillages de boulangeries, lorsque le pain manque ou lorsqu'on n'a plus d'argent pour acheter le pain, plutôt, qui marque ces années. Il semble qu'Alman n'ait pas participé, notamment à la grande émeute de mars 83, dans le cadre de laquelle les boulangeries ont été pillées. Dans tous les cas, il le nie dans ses mémoires, il n'en parle pas dans ses mémoires. Et il a été arrêté à ce moment-là pendant quelques temps, mais sans qu'on puisse faire la preuve que cette arrestation est liée à une participation à ces manifestations. Il est très vraisemblable, en effet, qu'Alman, quelque conscient qu'il soit des souffrances du monde du travail parisien, n'est pas d'accord avec ce type de comportement. Il ne faut pas oublier que, d'une part, le groupe socialiste auquel il adhère n'adopte pas ces formes de rébellion. Et il ne faut pas oublier, d'autre part, que, ouvrier du livre, ouvrier relativement bien payé, il est engagé profondément dans ces années-là dans les affaires de sa fédération, et que les affaires de la fédération, même s'il tente de les infléchir dans un sens socialiste révolutionnaire, ne le conduisent pas, même à approuver, disons, de telles démarches.
Gesellmann, avant que Jean Alman ne devienne patron lui-même en fondant sa propre entreprise d'imprimerie, il a participé à la Fédération du Livre. Quel est le rôle spécifique qu'il a eu à la Fédération du Livre?
C'est un important. Lorsqu'Alman va revenir de la déportation, c'est-à-dire dans les années 80, il faut dire au passage que c'est un personnage. Arrivé, vous l'avez peut-être dit ailleurs, mais moi je tiens à le redire, arrivé à monter une grève des bagnards et la gagner à la Nouvelle-Calédonie, il fallait le faire quand même. Rien que pour ça, chapeau. Cela dit, il va revenir en 1880 et il va tout de suite retravailler en presse. D'ailleurs, il ne travaillera qu'en presse à partir de ce moment-là, c'est dans les journaux. Et en 1800, il revient en 1880 et la fédération va naître en 1881. Il ne sera pas dans les fondateurs, mais il sera immédiatement à la direction, enfin, dans les quelques militants, parce que ce n'était pas des masses, il ne faut pas exagérer. Et très vite, il va apparaître responsable du cercle de la typographie, le cercle typographique des études sociales. C'est-à-dire que dans cette fédération naissante, il va tout de suite prendre position et animer une bataille, sur plusieurs points. En éditant des journaux, bien sûr, qu'il commencera à écrire, qu'il écrira lui-même, avec d'autres camarades, bien sûr. Mais alors, il va se battre sur quelques points très spécifiques. D'abord, la commandite. Ce qu'Alman recherchait à travers cette affaire de commandite, c'était d'éviter le rapport direct patron-ouvrier. Et alors, l'idée de la commandite était la suivante. Le patron mettait en place, pour un travail donné, une équipe donnée. Par exemple, tant de typos, tant de conducteurs, tant de balayeurs, tant de correcteurs, et ainsi de suite. Et le chef cette équipe élisait son responsable, le pageux, comme nous disons. Ce pageux allait discuter le prix du travail considéré. Bien sûr, ça avait un côté travail à façon, mais pas individuel, collectif. Et ce travail, le prix de ce travail était divisé exactement entre tous les participants de l'équipe, sans différence de salaire. Alors ça, Alman a gagné, parce que non seulement ça a été imposé dans certaines grosses boîtes comme à l'Imprimerie nationale, au journal officiel, mais la majorité des grands journaux, en tout cas tous les journaux parisiens, travaillent toujours avec cette notion que nous avons de service, il y a un seul salaire pour tout le monde. Il va se battre pour l'amnistie pour les non-syndiqués. C'est-à-dire, dans les années 76-17, il y a eu des grèves très dures qui ont mal fini, et il y a eu des jaunes, bien entendu. Et ces jaunes, c'est toujours un drame pour les ouvriers. Les ouvriers organisés, le jaune, c'est vraiment l'abomination de l'abomination. Mais quand des années après, on redémarre l'organisation, que faire de ces jaunes? Est-ce qu'on va leur mettre le péché originel à croire toute leur vie? Enfin, ça pose toujours un problème. En tout cas, Alman, lui, qui pourtant était bien placé pour savoir ce que c'était que la répression et les trahisons, et toutes ces choses, n'est-ce pas, va se battre et ça va être un des axes de son cercle, de façon permanente, pour l'amnistie. Il faut laver, il faut recommencer à zéro, quand on peut recommencer à zéro, parce que ce sont les patrons qui gagnent. Hein, c'est sa grande idée. Alors ça va être la deuxième chose. Et la troisième chose, qui est peut-être, il reste trois grands problèmes. Un problème où il sera battu, c'est le problème des femmes. Le travail des femmes dans la Fédération du Livre est un problème, d'ailleurs comme dans toute la CGT, d'ailleurs comme toute la classe ouvrière, mais particulièrement dans la Fédération du Livre, est un problème très difficile, qui encore aujourd'hui n'a pas encore complètement basculé.
Il y a une femme qui est en train de travailler en ce moment sur un linotype dans cet atelier où il y a trois ou quatre hommes.
Oui, mais rassurez-vous, moi j'ai travaillé dans des grandes équipes où il y avait 110 opérateurs, comme nous disons, il y avait 5 femmes. Nous ne sommes pas misogynes, mais enfin quand même. Bon. Alors Allemagne va être un des premiers à se battre vraiment, et d'une façon très progressiste, c'est-à-dire qu'il ne se battra pas pour... Il y aura un autre secrétaire dont je parlerai sans doute, qui lui dira « je veux pas de femme à l'atelier ». Mais on ne peut pas faire autrement parce que les patrons vont nous avoir. Donc il faut essayer de travailler avec elles aussi. Mais il commencera par dire « je ne veux pas ». Tandis qu'Allemagne dira « non, il faut les organiser en tant qu'ouvrière hein, ». C'est son... Alors là, il sera plutôt battu. Par contre, il va aussi poser le problème, et ce sera le premier dans le mouvement ouvrier français, des rapports, d'essayer de trouver une définition et une solution intelligente, enfin, j'allais dire intelligente, une bonne solution au rapport syndicat et parti. C'est la tarte à la crème du mouvement ouvrier. Et à mon avis, ça n'a jamais été correct. Enfin, ça n'a jamais été résolu, ça ne marche jamais exactement, on ne trouve pas. Hein.
C'est-à-dire entre la Fédération des travailleurs de livres et le Parti socialiste
C'est ça. Et lui va ouvertement se battre pour la politisation des syndicats, le droit à la politique dans les syndicats. Alors qu'il y aura tout un aspect qui ira dans l'autre sens. Alors là, c'est ambigu. Mais là où il va se battre, il va gagner. C'est très important parce que c'est toute l'histoire de la Fédération. C'est l'histoire des similaires. Alors voilà. La Fédération du Livre est née à partir des typographes. Ceux qui portaient épée au Moyen-Âge et encore à la Renaissance. Et les typographes poussaient à la Fédération, ce sont des camarades typographes, mais dans cette Fédération acceptaient les ouvriers qualifiés, hautement qualifiés. Les typographes, les conducteurs, les relieurs, les doreurs, etc. Mais ne refusaient énergiquement d'accepter les margeurs, les receveurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les OS. C'est-à-dire un métier qui s'apprend très vite. Comme disait Rocheteau, un des fondateurs de la FED, nous ne voulons pas des ramasseurs de chiffons. C'était les similaires. Parce que la Fédération, ça s'appelait la Fédération du Livre. Le premier titre, c'était la Fédération du Livre, la Fédération des ouvriers, des typographes et des similaires. Et Allemann s'est battu et a imposé le titre actuel Fédération française des travailleurs du Livre.
La Fédération se constitue en 1881, dans des conditions très difficiles, après une très longue grève en 1878, à laquelle l'Allemagne, qui était encore au bagne, n'avait naturellement pas participé, d'une grève qui s'est terminée par une véritable catastrophe pour la Fédération. Enfin, pour la Fédération, pour la section des ouvriers du Livre de Paris. Et c'est à la suite d'ailleurs de l'échec de cette grève que la section parisienne acquiert la certitude que pour gagner dans d'autres combats, pour gagner dans d'autres grèves. Il est indispensable qu'il y ait une solidarité entre les chambres syndicales d'ouvriers du livre qui existent dans différentes villes de France. Et la Chambre typographique de Paris va, de fait, diriger la Fédération pendant de longues années. Mais cette Chambre typographique de Paris, d'abord, entreprend de rallier le maximum possible de sections de province à la Fédération, et c'est une des tâches auxquelles va se vouer Allemann, surtout lorsqu'il rentre au comité central de la Fédération à la fin de 1884. Il va courir la France pour créer des sections. La France est jusqu'en Algérie. Il ira jusqu'en Algérie créer des sections du livre. Il ira à Marseille, à Besançon, à Montpellier. Il écrit des lettres à Marie, d'ailleurs. On a gardé une lettre à Marie dans laquelle il évoque ce voyage. Bon. il ira là où on l'appelle parce qu'il y a une menace de grève et qu'on demande aux responsables parisiens, qui sont les responsables nationaux de la fédération, les membres du comité central, de venir donner leur avis avant qu'une grève ne s'engage. Si on essaye de reconstituer la vie de travail d'Alman, qui généralement travaille de nuit dans son imprimerie, de jour, il consacre son activité pour une très très grande part à la Fédération du Livre. Mais dans la Fédération du Livre, il joue en même temps un rôle spécifique. Il n'est pas simplement un membre du comité central de la Fédération. Il est un de ceux qui tentent d'infléchir la Chambre typographique de Paris et par le comité central, l'ensemble de la Fédération, à gauche, dans une perspective socialiste. La majorité des ouvriers du livre parisien ne sont pas socialistes, ce sont de fermes et bons républicains, mais la majorité n'est pas socialiste, mais il y a une minorité socialiste qu'Alman anime dans une grande proportion, dont il est aussi le porte-parole et qu'il s'efforce de faire progresser. Et il crée pour ce faire un journal, le Réveil typographique, en 1884, qui est l'organe, à la fin de 1884, qui est l'organe de la tendance socialiste à l'intérieur de la Fédération. Ces deux courants existeront d'ailleurs dans la Fédération du Livre pendant toute son histoire, et particulièrement dans la région parisienne. Et simplement, Alman cessera de militer à la Fédération à partir de 1888, où il achète une petite imprimerie, où il devient donc petit patron, et 1888-89. Et cette position de petit patron ne l'empêchera pas, bien au contraire, de continuer à militer comme socialiste. Mais quoique restant proche des ouvriers du livre, en contact constant avec eux, il ne pourra plus siéger dans les organes responsables de la Fédération, puisqu'il n'est plus ouvrier.
Est-ce que Jean Alman est encore connu des ouvriers du livre? Et notamment, est-ce que la Fédération du Livre est attachée à prolonger son souvenir?
Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Pas plus tard que l'année dernière, Blanqui. Blanqui, c'est le siège de la Chambre syndicale typographique, la CSTP, c'est-à-dire le syndicat parisien. Et à Blanqui, la grande salle, nous avons toujours une grande salle, vient d'être débaptisée pour être rebaptisée la salle Jean Alman.
Donc, le souvenir de Jean Alman n'est
absolument
pas mort.
Non, absolument. Il n'est pas mort parce que nous avons un grand mort. C'est Varlin. Varlin, c'est, pour nous, c'est le symbole en soi. Alman, c'est plus intéressant parce qu'il est resté vivant. C'est tout de même mieux, non? Un communard vivant, c'est pas mal non plus. Non, Alman n'est pas mort, d'autant plus. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors là, ça devient un problème de spécialiste un peu, mais de spécialiste militant, n'est-ce pas? Mais dès qu'on fait une histoire du militantisme intéressant, touchant à la Fédération du Livre et les choses de cet ordre, on est forcé de reprendre en compte l'histoire d'Alman parce que justement son parti, qui a fonctionné, le parti almaniste, qui a fonctionné des années 90 à 1905 jusqu'à la fusion, a vraiment essayé de poser d'une façon intéressante, nouvelle, les rapports syndicat-parti, poser le problème de l'anarcho-syndicalisme politique, ce qui était extraordinairement contradictoire dans les termes, mais en tout cas Alman l'a fait. Et rien que pour ça, pour nous, bah, c'est pas mal. Pour une fois, un ouvrier, authentiquement ouvrier, alors qu'est-ce que ça veut dire quand on s'appelle Alman et qu'on est devenu militant et qu'on est capable d'écrire et de lire, de réfléchir, etc. Mais il n'empêche que d'origine, c'était le premier, des grands fondateurs des partis socialistes, c'était le seul, à ma connaissance, qui était authentiquement ouvrier.
Le premier choc fut terrible, la mêlée indescriptible. On s'est battu comme des fous. J'ai pour ma première bataille reçu une belle entaille, mais je suis resté debout. Moi qui détestais la guerre, car je suis humanitaire, je pouvais pas en croire mes yeux. Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi qu'entraînais les autres, oui j'étais le plus furieux. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho ou socialiste, tout chacun fait son devoir. Certes, cela est pénible, quand on a le cœur sensible, de voir tomber les copains. Mais quand on est sous les armes, on ne doit pas verser de larmes, on accepte le destin. Qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on laisse l'internationale pour la victoire finale, on la chantera au retour.
Au sein du mouvement socialiste, quelle est la position que va prendre Alman, d'autant que les chefs du mouvement socialiste semblent être divisés en plusieurs tendances. Il y a celle de Guède, il y a celle de Brousse que vous citiez, il y a celle de Vaillant et il va y avoir celle d'Allemagne d'une certaine façon. Alors comment se situe-t-il par rapport aux autres courants et qu'est-ce qu'on va pouvoir appeler l'allemanisme dans le mouvement socialiste ?
Alors il faut bien distinguer les moments. Parce que de son retour de déportation et de ses premiers contacts avec la Fédération des travailleurs socialistes de France, lesquels contacts datent de 1881, jusque vers 1889-90, Alman est un militant de la Fédération des travailleurs socialistes. On ne voit pas que des divergences graves l'opposent à Brousse, à Chabert, à Geoffrin, aux responsables parisiens ou de province de la Fédération. La Fédération convient à Alman dans la mesure où c'est d'abord un parti très extrêmement décentralisé. C'est un parti où il n'y a guère, au moins au début, de chef. Et Alman a pour eux une horreur qu'il intègre à sa visée politique. Mais dans la Fédération des travailleurs socialistes de France, il partage son idéologie décentralisatrice. Il est d'autre part en accord profond avec la Fédération, il a l'occasion de le montrer, et même d'être en flèche par rapport à la Fédération, à propos du républicanisme de la Fédération. Lorsque commence l'affaire Boulanger, en 1886, lorsque le général Boulanger, captant d'une certaine manière la colère ouvrière, la colère paysanne aussi en France, dans le cadre de la grave crise économique que nous avons évoquée tout à l'heure, se fait une popularité comme ministre de la guerre. Lorsque le général Boulanger, soutenu à la fois par certains républicains d'extrême gauche, non pas socialistes, mais d'extrême gauche comme Clémenceau, ou par des forces de droite monarchistes, parvient ainsi à devenir le premier porte-parole d'un mouvement nationaliste français qui se dit républicain, qui se dit antiparlementaire et qui s'affirme partisan de la revanche. Les militants de la Fédération des travailleurs socialistes de France, et particulièrement les militants parisiens, prennent presque immédiatement position contre lui. Il voit dans Boulanger un danger pour la République, dès 1887 en tout cas, et il s'engage de façon très profonde dans la collaboration avec les radicaux parisiens qui, à la différence de Clémenceau, mais Clémenceau finit d'ailleurs par les rejoindre, sont méfiants devant le boulangisme. La Fédération et Alman, plus que quiconque dans la Fédération, passent des accords avec les radicaux organisés rue Cadet. On appelle pour cette raison les partisans de cette alliance les cadettistes, et l'épithète de cadettiste restera très souvent accolée au nom d'Alman comme une injure de la partie de la classe ouvrière très méfiante devant cette alliance avec les radicaux bourgeois. Et Alman va plus loin, il est de ceux qui fondent en 88-89 la Société des droits de l'homme n'a rien à voir avec la Ligue des droits de l'homme qui se créera pendant l'affaire Dreyfus. Société des droits de l'homme dont l'objectif très précis, c'est de fournir les arguments et de rassembler les hommes qui veulent s'engager à fond dans le combat avec les libéraux bourgeois contre le général Boulanger. Il n'y a pas seulement les radicaux dans les hommes qui adhèrent à la Société des droits de l'homme ou dans l'Alliance cadettiste, il y a des républicains extrêmement modérés qui n'hésitent pas à avoir à l'égard de la classe ouvrière des attitudes absolument intolérables pour les ouvriers. Et pour Allemagne et pour la Fédération, la défense de la République l'exige. Puisque la défense de la République l'exige, nous devons en passer par là.
À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventru congresse, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement.
À partir de quelle date apparaît le courant que l'on appellera allemaniste ?
Bien, c'est en 1890. À la suite d'une campagne et de débats qui ont duré un an, qu'au congrès de Châtellerault, la Fédération des travailleurs socialistes de France se scinde en deux et qu'un certain nombre de militants, très majoritaires à Paris et disposant de soutiens non négligeables, notamment dans les Ardennes, autour de Jean-Baptiste Clément, le chansonnier du temps des cerises, hein, se constitue en un parti indépendant de la Fédération, qui prend le nom de Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, POSR. Et cet Allemagne, dont le nom se trouve accolé à ce parti, d'une façon qui est peut-être excessive, et que le nom d'Allemagne est accolé à l'excès à ce parti, dans lequel il n'a vraiment joué un rôle éminent et dirigeant qu'en 1890, 1891, 92. Bon. Mais auquel le fait est que son nom restera accolé. Alors sur quelle base se fait la scission ? Le parti, aux yeux d'Allemagne et de ceux qui vont créer le POSR, tente à s'embourgeoiser et il faut recréer un parti qui ne soit pas bourgeois. Je pense qu'il ne faut pas trop exagéré dans cette voie, d'autant que des intellectuels français notoires, et notamment Lucien R., le bibliothécaire de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, adhèrent au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. Ils sont considérés comme membres à part entière, et que R. écrira d'ailleurs dans le journal du parti, le Parti ouvrier, qu'Allemagne avait créé avant même que le parti n'existe. Il y écrit sous le pseudonyme de Jules Breton. Et d'autres intellectuels y adhéreront également. Bon, donc il y a cet aspect. Mais plus profondément, il y a une nouvelle conception des rapports entre les élus et l'organisation politique. Allemagne, en effet, et les communards les plus proches de lui, tout en étant partisan du système électoral, bon, tout en étant partisan d'un système de représentation qui est un moyen de compter ses voix pour le parti, et qui est un moyen de faire de la propagande, surtout. Les périodes électorales sont le moment pendant lequel on fait avancer les idées du parti, pendant lesquelles on propagande, comme on disait à l'époque. Il y a un verbe, propagander, qui est employé très couramment à la fin du XIXe siècle. Les élections sont récusées par Allemagne et par les gens les plus proches de lui à la fin des années 1880, dans la mesure où elles donnent naissance à un système représentatif où l'élu tente à se détacher de sa base. Alors, la Fédération des travailleurs socialistes de France en était d'ailleurs d'accord. Et elle tendait à placer l'élu dans la dépendance de sa base électorale. Et Bruce et les autres développaient l'idée selon laquelle le scrutin d'arrondissement est un bon scrutin, car dans l'arrondissement, qui est un espace de petite dimension, les électeurs peuvent contrôler leur élu et lui donner ce qu'on appelait le mandat impératif. Le mandat impératif de faire telle ou telle chose, de tenir tel ou tel propos, de combattre tel ou tel projet de loi, de parler pour tel ou tel autre projet. Bon, c'est la théorie du mandat impératif. Mais au fur et à mesure que les socialistes conquièrent des sièges, pas encore beaucoup au Parlement à vrai dire, mais au Conseil municipal de Paris, la scission de 1890 se fera quand même pour l'essentiel à partir de problèmes, de débats et de conflits qui concernent la ville de Paris. Mais au fur et à mesure que les socialistes pénètrent au Conseil municipal de Paris, ils le dirigent jusqu'en 1900 en alliance avec les radicaux. Un certain nombre de militants parisiens, dont Alman, ont tendance à penser que leurs élus s'écartent du mandat impératif. Ils prennent des initiatives qui n'ont pas été délibérées avec la base. Dans certains cas, ils acceptent par exemple de s'associer à des initiatives en politique internationale prises par l'État français que les socialistes parisiens récusent entièrement. Dans certains cas, il leur semble donc qu'il y a plus qu'un discord, un divorce entre élus et base. Et c'est alors que l'on voit naître chez ces militants parisiens, et en particulier chez Alman, une autre conception du mandat impératif. Et cette conception consiste à dire que le mandat impératif ne place pas l'élu sous la dépendance de sa base électorale. On peut toujours tromper la base électorale, on peut toujours manœuvrer, on peut toujours raconter n'importe quoi aux électeurs. Mais l'élu doit être placé sous le contrôle du parti. C'est une conception tout à fait nouvelle qui donne au parti un pouvoir sur son mandataire. Et c'est une conception à laquelle Bruce et les élus au Conseil municipal de Paris n'ont aucune envie de se soumettre. Sans aucun doute, ils ne tiennent pas à ce que le contrôle du parti sur eux s'exerce. C'est en grande partie, et même pour l'essentiel, autour de cette double conception du mandat impératif que se fait la rupture de Châtellerault et que se constitue le parti almaniste.
Alman lui-même deviendra un élu municipal et ensuite un élu national à la Chambre des députés.
Il sera élu à la Chambre en 1901-1902 et à nouveau entre 1906 et 1910. Mais il s'est présenté très souvent. Alman ne récusait en aucune manière les campagnes électorales. Hein, en aucune manière. C'était les occasions de propagande. Il est élu quand il peut, quand il ne peut pas, il ne l'est pas. Ce n'est pas un problème. Simplement, l'autorité du parti, il l'admet. Le mandat impératif, tel qu'il a été défini au congrès de Châtellerault, il l'entérine. Reste que lorsqu'il sera élu en 1901-1902, et plus encore en 1905, le contrôle du parti est devenu un contrôle très faible et, à vrai dire, modeste.
Quelle action politique va-t-il avoir comme parlementaire et quel poids a-t-il à la Chambre ?
Alman n'a jamais disposé d'un très grand poids à la Chambre des députés. Ce n'était pas un lieu où il se sentait particulièrement à son aise. Même si d'autres députés almanistes y siégeaient, qui étaient plus près du peuple, d'une certaine manière encore que lui, hein, l'un d'entre eux passait pour presque illettré. Bon. Néanmoins, Alman intervient souvent. Il intervient sur des problèmes, à la fois des problèmes humanitaires, par exemple contre la peine de mort. Il intervient sur des questions qui touchent à la santé ouvrière ou au droit du travail, pour le repos obligatoire hebdomadaire, à propos de la loi sur les accidents du travail. Vous voyez, voilà les thèmes principaux sur lesquels il intervient. Il s'abstient d'intervenir dans les grands débats de politique internationale ou dans les options qui concernent des secteurs de la société qu'il ne connaît point, comme par exemple le monde paysan. Vous voyez. Il intervient en tant qu'ouvrier du livre, et c'est même, je crois, le seul cas où une intervention d'Alman est une efficacité évidente, C'est lui qui fait adopter, après un long débat et beaucoup d'opposition, l'organisation de l'imprimerie nationale en commandite.
Quelle va être l'attitude d'Allemagne au moment de l'affaire Dreyfus ?
Alors c'est extrêmement intéressant parce que non seulement Allemagne, mais la majorité, sinon la totalité du parti allemandiste, s'est investie extrêmement tôt dans la lutte dreyfusiste. Et extrêmement tôt, en ce sens que le Parti ouvrier, le journal qu'Allemagne avait fondé en 1888 et qu'il avait en somme apporté au mouvement allemandiste, au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, exprime son inquiétude devant les conditions dans lesquelles Dreyfus a été condamné dès le lendemain du procès, donc dès décembre 1994, alors que tout le monde croit Dreyfus coupable. Ils n'ont aucune preuve que des pièces fausses aient figuré dans le dossier, ils ne savent pas que le dossier Dreyfus a été communiqué au juge sans que l'accusé et ses avocats en aient eu connaissance, ils ne savent rien de tout cela. Leur méfiance vient de la méfiance qu'ils éprouvent devant les tribunaux militaires. C'est l'antimilitarisme profond d'Allemagne et des allemandistes qui les conduit à ne pas avoir confiance dans le jugement qui vient d'être rendu. Mais dès que l'affaire réémerge, avec les informations notamment diffusées par Bernard Lazare, on voit le Parti ouvrier s'en saisir. Les allemandistes s'engageront à fond derrière la cause dreyfusiste et renoueront à cette occasion l'alliance avec les radicaux dreyfusards, c'était le cas de Clemenceau, l'alliance avec les socialistes qu'ils accusaient pourtant d'être des bourgeois et dont ils s'étaient profondément séparés au moment des grands débats sur la grève générale, et notamment l'alliance avec Jaurès. Entre Allemagne et Jaurès, des liens très étroits se nouent pendant l'affaire Dreyfus, qui ne se défront jamais complètement. On verra Allemagne dans l'affaire de la communion de la fille de Jaurès, Madeleine, qui, en 1901-1902, fera l'objet d'accusations extrêmement violentes contre Jaurès à l'intérieur de son propre parti, le Parti socialiste français, affaire dans laquelle les allemandistes s'investiront comme accusateurs de Jaurès. On verra Allemagne, lui, à titre personnel, agir de telle manière que la situation se détende au maximum et que Jaurès n'encourt pas un blâme grave de son parti pour avoir accepté que sa fille fasse sa première communion.
Et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour.
Jean Allemagne, né en 1843, aura donc plus de 70 ans, 71 ans au moment de la guerre de 14, mais cet antimilitariste, quelle est son attitude dans les années qui vont précéder la guerre ?
Le choix fait par Allemagne en janvier 1914 témoigne très très profondément alors de l'incapacité d'Allemagne à cerner ce qui est en train de se passer de nouveau, non seulement dans la société française, mais dans le monde. La montée de l'impérialisme, les menaces de guerre, les tragédies que représente une guerre du XXe siècle et que la Première Guerre mondiale va effectivement représenter. De cela, certains socialistes avaient pris conscience, inégalement. Jaurès plus que quiconque, sans aucun doute, dans la SFIO, et probablement plus que quiconque dans tout le mouvement socialiste international. Mais la SFIO avait finalement suivi. Elle avait entériné la campagne contre la guerre, même si elle n'ira pas jusqu'au bout de l'engagement d'ailleurs qu'elle n'avait pas pris, mais enfin, même si elle n'ira pas jusqu'au bout de ceux qui auraient voulu la voir s'opposer fermement à l'Union sacrée, attendaient d'elle. Allemagne, lui, s'en détache. Ces phénomènes nouveaux, ces phénomènes qui concernent les rapports de force dans le monde, la montée des aspects nouveaux du capitalisme dans le monde, les tensions internationales associées aux guerres coloniales, telles qu'on les a vues apparaître pendant la conquête du Maroc par la France, où la France s'est opposée très violemment à l'Allemagne, où la guerre a failli éclater à plusieurs reprises, en 1905, 1906, à nouveau en 1911, 1912. Allemagne ne les a pas cernés. Ce sont des dangers qu'il n'a pas vus. Il est un homme d'une autre époque, et je crois que la scission qu'il opère en janvier 1914, c'est cela qu'elle signifie. De même que ses interventions modestes à la Chambre pendant les années où il y a été député entre 1906 et 1910. Lorsque la guerre vient, Allemagne s'engage dans l'Union sacrée totalement, totalement, laissant de côté tout antimilitarisme, etc., laissant de côté la base même, la lutte de classe, sur laquelle en janvier 1914, il avait conduit la scission par rapport à la SFIO. Non seulement il s'engage totalement dans l'Union sacrée, mais en 1919, lorsqu'un ancien socialiste, Gustave Hervé, rallié au jusqu'au boutisme, pas seulement à l'Union sacrée, mais jusqu'au boutisme le plus extrême pendant la Première Guerre mondiale, quittant la SFIO sur la base de ce jusqu'au boutisme, lance son journal et crée un parti socialiste national. On entendra plus tard parler de partis nationaux socialistes ou national-socialistes, mais le parti que crée Gustave Hervé s'appelle Parti socialiste national et retrouve pour ce parti socialiste national des thèmes qui, à certains égards, ne sont pas très éloignés des thèmes du boulangisme, mais sont beaucoup plus dangereux parce que nous ne sommes plus à la même époque. Que fait Allemagne ? Il donne son adhésion au Parti socialiste national.
Par contre, un an après, au moment de la scission du Congrès de Tours, au moment de la scission de la CGTU, il n'apportera pas son adhésion au tout jeune Parti communiste.
L'étonnant n'est pas qu'Allemagne n'ait pas adhéré au Parti communiste. L'étonnant est qu'Allemagne ait manifesté en 1921-22 de la sympathie, semble-t-il, pour le Parti communiste et pour la CGTU. Et ce n'est pas incroyable si l'on admet qu'il est, à mon avis, devenu incohérent. Si l'on admet qu'il va d'une opinion à l'autre sans disposer désormais d'une vision globale dont il avait disposé au moment de la Commune, dont il avait disposé dans les années 1880 à 1890, dont il disposait encore au moment de l'affaire Dreyfus et dont il cesse de disposer au début du XXe siècle. La perte de toute vision globale, elle se caractérise par ses coups de boutoir, adhérer au parti ouvrier en janvier 14 sur la base de la lutte de classe, adhérer quelques mois plus tard à l'Union sacrée la plus absolue, en janvier 1919, adhérer au Parti socialiste national le plus jusqu'au boutiste et le moins socialiste lutte de classe qui soit, alors qu'on est revenu à la paix, alors que la paix est là. Et deux ans plus tard, se retrouver relativement proche des communistes, ce sont des marques d'incohérence. Mais cette incohérence est fascinante. Elle est fascinante parce qu'elle témoigne historiquement, je crois, d'une façon très profonde, alors, de la difficulté des hommes de la génération d'Allemagne à cerner le début du XXe siècle. Elle témoigne, et de ce point de vue, les historiens l'éprouvent avec une grande force, de l'extrême difficulté à comprendre les changements qui s'opèrent dans le monde au XXe siècle. Elle témoigne de la rupture entre le XIXe et le XXe.
J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur l'un des dirigeants de la Fédération du Livre, fondateur d'un nouveau courant socialiste, Jean Alleman, par Jean Montalbetti, médiateur Madeleine Rébériou, vice-présidente du musée d'Orsay, consultant Jean-Jacques Eisenman de la Fédération des Travailleurs du Livre. Les lettres inédites de Jean Alleman à sa compagne, Marie Quesneau, ont été lues par Jean Rochefort. Les chansons que vous avez entendues, « Faut plus de gouvernement » chantée par Marc Augeret, « La Marseillaise de la Commune » de Rouget de Lille, revue par Madame Jules Favre, « Lettres d'un socialo », une chanson de Montéus, et « Le temps des cerises » de Jean-Baptiste Clément, chantée par Yves Montand. Recherche de documentation, Catherine Montalbetti. Prise de son, Léon Gallois et Alain Berthet. Mixage, Robert Gachassin. Réalisation, Eliane Millot. Thank you.
Cette émission, dernier volet d'une série de trois, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 mars 1983. Vous pouvez la réécouter en ligne ou la télécharger à la rubrique des nuits sur le site franceculture.fr.